ce sujet de la lutte contre l'ange de Ésav, et au-delà d'une lutte physique que nous raconte le Pshat, qui est un combat entre l'ange et Yaakov, bien entendu, il y a toute une série de sens qui sont là derrière. Et parmi ces sens, on a le sens de la préfiguration des temps futurs, où la descendance de Yaakov va être confrontée à la descendance de Ésav, car nos maîtres nous expliquent, Ésav, c'est Édom, et Édom n'est autre que Rome. Pendant cette paracha, on nous explique quels sont les chefs de Édom, parmi lesquels on va trouver Magdiel, et les Chachamim expliquent Magdiel, c'est Rome, c'est l'Empire romain, et par extension, les empires occidentaux, tous ces empires chrétiens qui, depuis 2000 ans, nous ont mené la vie dure, dans l'ensemble, et à certaines périodes. Et parfois, cette vie dure a été loin de là, puisque c'était la mort qui était préparée, industrialisée, avec la mobilisation des réseaux ferrés d'Europe, y compris le réseau français de la SNCF, et également mise en place d'une solution industrielle pour l'effacement, pour la destruction du peuple juif en général, d'Europe et d'ailleurs, parce que les camps ont commencé à être construits aussi en Afrique du Nord. Cette lutte préfigure les temps futurs parce que Yaakov a été blessé par cet ange. Il a été blessé à la hanche, nous dit-on. À la hanche, en fait, les Chachamim expliquent que c'est une manière de nous dire à l'aine, au lieu où il y a où c'est une allusion à la descendance de Yaakov. Donc, ses descendants, comme lui, blessés à la hanche, comme lui, vont subir. On peut maintenant le mettre peut-être au passé avec l'aide de Dieu, mais on subit des blessures graves. Mais il n'a pas succombé. Et lorsque la nuit de l'exil prendra fin, Baruch HaShem, l'exil est déjà terminé pour une partie très importante du peuple juif, pas encore tout à fait la moitié, mais on n'est pas loin. Eh bien, lorsque cette nuit de l'exil va prendre fin, son adversaire, comme l'ange de Ésav, l'adversaire du peuple juif, lui rendra hommage. Donc on peut imaginer cette chose qui nous semble inatteignable aujourd'hui, ou presque, que même les ennemis les plus farouches d'Israël vont modifier leur manière de nous considérer. Mais Israël tourne ses regards vers l'avenir. Ésav, le Rome, l'Occident, revendique le présent. Jacob, lui, sait que son frère, ambitieux, éblouissant de richesse, éblouissant de puissance matérielle, l'emporte et l'emportera longtemps, en tout cas en premier. Alors que sa propre famille, Jacob, sa propre famille, va être tournée vers des aspirations spirituelles et non pas, il ne va pas chercher à être le premier, la première armée du monde pendant tous ces siècles d'Occident chrétien. Eh bien, nous étions absolument pas en état de nous opposer à la puissance matérielle, militaire, considérable de ces empires chrétiens qui ont opprimé, persécuté et même tenté de détruire les juifs, les détruire spirituellement et les détruire, bien entendu, aussi physiquement. On retrouve là ce combat. De ce combat, nous transportons, nous approchons de la période de Hanouka, et la période de Hanouka fait allusion à une période historique où les Juifs ont réagi face aux Gréco-Macédoniens, donc des peuples héritiers d'Alexandre le Grand, ceux qui, en fait, l'Empire avait été divisé en plusieurs morceaux tellement il était grand. L'Égypte était aux Lagides, c'est-à-dire là où on va retrouver. Donc il y avait la partie Égypte, il y avait la partie Syrie. En Syrie, nous avions Les Séleucides, c'est une des parties, une des héritiers d'Alexandre le Grand. Eh bien, qu'ont-ils essayé de faire? Ils ont essayé de nous détruire spirituellement en nous interdisant l'étude de la Torah. Et c'est à tout cela que fait allusion Hanouka, le miracle de Hanouka, qui fait que nous avons vaincu contre de puissantes armées gréco-macédoniennes. Nous avons réussi à réagir contre une influence spirituelle néfaste. Mais la lutte de Essav n'était pas que spirituelle. Ils sont tentés encore aujourd'hui dans les rues d'Israël. Il arrive de voir des missionnaires chrétiens qui veulent convertir des juifs, profitant qu'ils peuvent être un peu certains, par exemple pauvres. Bon, on leur offre des boissons, on leur offre des choses, on leur donne l'illusion qu'ils sont bien traités, mais on veut les convertir. Ça existe encore aujourd'hui, malheureusement. Donc, il y a cette tentative de destruction spirituelle, mais il y a aussi, malheureusement, une tentative de destruction physique. C'est ce qui s'est passé au temps de l'Espagne des rois catholiques, 1492, décret d'expulsion, et à la suite, il y a eu tentative de faire convertir tous les juifs qui n'ont pas voulu, pas tous en tout cas, beaucoup sont restés parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. Et c'est d'ailleurs le thème de mon prochain roman qui vient juste d'être bouclé, Baruch HaShem, qui raconte toute cette histoire-là, sous forme aussi un peu d'aventure, hein, je dois dire, mais qui reste bien entendu lisible par un Haredi. C'est pas un roman pour vendre du papier, hein, c'est un roman qui tente de rester d'une bonne qualité spirituelle. Mais en même temps, c'est une autre manière d'enseigner, de même qu'à une époque, je fais une petite parenthèse si vous permettez, de même qu'à une époque, bon, on est dans le sujet, hein, la lutte des descendants de Jacob contre Ésaü. Il faut mobiliser toutes les forces de l'enseignement pour pouvoir durer. Et ces forces de l'enseignement, il faut les développer à tous les niveaux. Je veux dire, y compris aux petits-enfants, en leur racontant des fables. C'est pourquoi j'ai fait des fables, j'ai écrit un livre de fables en rappelant des fables de nos maîtres. Et puis, bien entendu, l'étude de la Torah, de la Mishnah, de la Haftarah, etc. Il y a tous les niveaux. Eh bien, maintenant, j'essaye de me lancer aussi pour, à travers le roman, toucher des gens qui n'iront pas faire le détour par un livre de Drachot ou pour venir à notre cours, même si vous me faites l'honneur d'être là. Voilà. Donc, l'enseignement fondamental pour lutter contre une des tentatives de l'ange d'attaquer Jacob, tentative de le blesser dans sa descendance pour qu'il abandonne sa voie, la voie et la voie de Jacob. À côté de ça, ils ont tenté de nous détruire physiquement. Pour ceux qui étaient apparemment convertis au christianisme et qui sont restés avec des pratiques juives dans l'Espagne des rois catholiques du XVIe siècle et plus tard aussi, eh bien, il y a eu le bûcher. Tout simplement, le bûcher, on les a brûlés. On a même été, c'est l'historien Baer qui explique ça, et c'est là où j'ai vu cette information, elle n'était pas passée au niveau familial, mais je l'ai vue par l'historien Baer. Il y a trois personnes de la famille Bakish qui ont été déterrées en Espagne, ils étaient déjà morts. Hein. Un homme, sa femme et sa fille ont été déterrés pour être brûlés en bûcher sur la place publique. Pourquoi? Parce qu'on avait découvert qu'ils étaient restés juifs de leur vivant. Voyez-vous, ça va très loin, la volonté de destruction. Même des corps, regardez maintenant avec les otages, combien on nous fait traîner pour nous rendre des corps, même pas des êtres encore vivants, en mauvais état, mais des corps. Eh bien, bien entendu, il y a aussi tout l'épisode dramatique de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si je dois dire seconde encore ou deuxième, parce que deuxième, ça laisserait entendre qu'il y aura une troisième. Et alors espérons, disons seconde, il n'y a pas de troisième, mais pendant cette Deuxième Guerre mondiale ou Troisième ou Seconde Guerre mondiale, il y a eu une destruction physique que tout le monde connaît, c'est la destruction des Juifs d'Europe à travers les camps de concentration suivis de camps d'extermination. Voyez-vous, toute cette histoire-là, Cette lutte de Yaakov et de Ésaü préfigure les temps futurs. Et quand Yaakov reçoit cette blessure grave qui l'a fait boiter, il a fallu que Hachem le guérisse, mais il l'a boité de ce coup porté contre lui, eh bien, cela nous indique bien que, certes, dans les millénaires qui ont suivi, le peuple juif a été gravement touché, très gravement, mais que Baruch HaShem, il n'a pas succombé et les promesses se développeront. Alors, il y a là un souvenir que je voudrais partager avec vous. Si vous le permettez, c'est une petite histoire vraie que m'a racontée une personne que j'aimais beaucoup, qui était venue d'Israël à Montreuil-sous-Bois, Monsieur Bokhara, qui m'a raconté ceci. Un jour, il était au café et il jouait comme ça, mécaniquement, avec. Vous savez, il y avait des petites bouteilles, les petites bouteilles avaient dedans un petit bouchon métallique, et dans l'intérieur de ce bouchon métallique, il y avait une petite rondelle de liège. Bon, c'était comme ça, hein. Autrefois, ce n'était pas les bouchons plastiques, on avait un petit bouchon métallique qui se capsulait sur la bouteille, et au-dessous, pour faire hermétique, il y avait cette petite rondelle de liège. Eh bien, il s'était amusé, il avait décollé la petite rondelle de liège, il l'avait mise dans son verre de soda, et en Tunisie, on appelait ça de la boga. Eh bien, et il jouait avec sa petite cuillère, il faisait descendre la petite rondelle de liège, il la faisait remonter, descendre, elle remontait toute seule, la faisait redescendre, il jouait. Il était là au café, il jouait un petit peu au soleil. Et voilà qu'à côté, il y avait un consommateur arabe, comme il se voyait régulièrement, donc il se connaissait, il pouvait lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais? Toi, un grand, un adulte, tu joues avec une petite rondelle comme ça dans ton verre. C'est ridicule, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, ce n'est pas ridicule. Ce que tu vois là, c'est tout le destin du peuple juif. Vous, vous n'arrêtez pas de nous enfoncer. Mais Hachem nous remonte. Hachem nous fait remonter à chaque fois. Vous pouvez nous enfoncer. Voilà, ça s'enfonce. Mais dès que je lâche la cuillère, hop, on remonte. C'est toute une histoire très profonde, en définitive, à travers cette petite anecdote. Et on a là tout le destin d'Israël. Yaakov est sorti vivant de cette lutte et il était prêt à tenir longtemps. Il était prêt à tenir. Et quand il a rencontré, en fait, Ésaü, eh bien, il lui a dit, passe le premier, en un mot, hein, passe le premier. Mon Seigneur sait que les enfants sont délicats, pour expliquer pourquoi il voulait rester derrière. Que mon Seigneur veuille passer devant son serviteur. Moi, je conduirai lentement son équipe, hein, tout dans le camp qui se déplaçait, et j'irai selon le pas du troupeau qui m'accompagne et selon le pas des enfants jusqu'à ce que je rejoigne, etc., etc. On a là un verset qui a en lui-même plusieurs indications sur l'histoire à venir des enfants d'Israël. C'est un parcours lent. Nous n'avons pas tout de suite, en une seconde, atteint le Mashiach. C'est un parcours lent. Et Jacob ne voulait pas une puissance rapide, vaine et éphémère. Il destinait ses enfants, son peuple, le peuple qui naîtrait de lui, à se préparer patiemment, à préparer patiemment la venue du Mashiach selon un long cheminement fait notamment de voix, notre prière, notre étude de la Torah, ce que nous faisons, Baruch HaShem, maintenant. Et c'est ainsi qu'il a répondu à son frère, en fait, encore que quand les messagers sont venus, il lui a dit, ton frère, Ressav, pourquoi cette répétition? Ton frère, ça suffit. On sait bien qu'il est question, il a un seul frère, c'est Ressav. Pourquoi? Cette répétition n'est pas inutile. Dans la Torah, rien n'est superflu. Rien n'est superflu. S'il y a cette répétition, c'est parce que les messagers ont dit à Ressav, ton frère approche, mais c'est toujours Ésaü. C'est-à-dire que c'est celui qui voulait te tuer. Bon, voilà donc ici, dans tout ce développement que l'on vient de présenter, on a toute une leçon une leçon de morale déjà, parce que je ne l'ai pas développé ici, mais Yaakov a traversé la rivière. Quand il a fait passer son camp, il a retraversé une rivière pour aller chercher des petits objets qu'il avait laissés. Ça nous indique que celui qui travaille honnêtement, eh bien, accorde de la valeur à tout ce qu'il a pu acquérir, alors que celui qui vole ou qui obtient gratuitement les choses n'accorde pas la même importance à ses biens, car il n'en connaît pas la valeur. Pour lui, c'est du gratuit. Et Rabbi Elazar nous enseigne que les justes se font d'ailleurs très minutieux dans leurs affaires pécuniaires, car ils ne se prêtent pas au vol. Donc, c'est pourquoi Yaakov a été récupéré. Il y a d'autres raisons, hein, bien sûr, au niveau du Pardès, on a beaucoup d'autres raisons encore sur lui, mais ce n'est pas le sujet que nous développons aujourd'hui. Donc, nous avons là une source du fameux principe Maaseh Avot Siman Levanim. Les actions des pères, les actions des ancêtres, c'est-à-dire nos ancêtres, en commençant par les patriarches, les actions des ancêtres sont une préfiguration de celles de leurs descendants. Comme Yaakov, on doit s'efforcer d'être économe. Comme Yaakov, on doit lutter contre l'ange de Ésav qui a voulu l'anéantir. Et donc, l'ange de Ésav, c'est le Yetzer Hara également. C'est-à-dire que c'est le mauvais penchant de l'homme. Et le mauvais penchant est particulièrement fort, car il existe depuis la création du monde, enfin, du moins depuis la création de l'homme. N'oublions pas que c'est lui qui a attaqué spirituellement Hava et Adam. Il a beaucoup d'ancienneté, il a beaucoup d'expérience. Alors que le Yetzer HaTov, eh bien, il est celui que nous avons tous en nous, et très frais. Il naît lorsqu'on atteint 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons. Donc, à chaque fois, c'est un bon penchant. Eh bien, on n'a pas trop d'expérience face à une personne qui dure depuis déjà plus de 5000 ans. On apprend aussi que la solitude n'est pas conseillée, puisque Yaakov est retourné sur l'autre rive et il était seul, il n'y avait plus son camp avec lui. La solitude n'est pas conseillée car elle attire justement le mauvais penchant qui peut inciter l'homme à agir mal, puis va vite remonter auprès du tribunal divin pour réclamer une sanction contre le fautif. D'où, cette fois-ci, c'est disons, une petite conséquence, un peu conclusion, un peu de moussard autour de cette paracha. Eh bien, on a une importance des bonnes fréquentations. Disons qu'on risque d'être mal influencé si l'on ne sait pas choisir par exemple, ses propres fréquentations et celles de ses enfants, de sa famille. J'ai expliqué que la nécessité de bien veiller à ses affaires, c'est aussi important et on le tire de là. On avait vu aussi qu'Abraham a fait très attention quand il a négocié avec les Hittites qui habitaient Hébron pour négocier l'achat. Il répète de très très nombreuses fois, bref, il nous apprend comment négocier, comment acquérir, etc. Et voilà donc quelques aspects sur cette paracha, sur cette lutte. Et si l'on veut quelques petits éclaircissements de l'ordre du Sod dans cette analyse du Pardès, de la paracha, eh bien, on voit que l'homme qui lutte contre Jacob, eh bien, c'est la force spirituelle qui incarne l'adversaire historique, l'adversité historique d'Israël. Ainsi, ce n'est pas seulement cette lutte que nous voyons, il y a deux lutteurs, certes, mais au-delà, c'est deux puissances spirituelles qui s'affrontent. Quant à la blessure à la hanche, nous avons expliqué déjà ce qu'elle représente mystiquement, c'est-à-dire une faille dans la transmission, d'où la nécessité de mettre en œuvre tous nos moyens pour tenter, y compris Zoom, pour tenter de, eh bien, de de continuer à expliquer ce que disent nos maîtres à propos de la Torah. Et essayer de le mettre dans toutes les langues pour les fables des enfants, etc., etc. Ou l'analyse très profonde, pour ceux qui le peuvent, l'analyse y compris du Zohar, sur toutes les parachas, il y a une analyse du Zohar. Mais bon, après, c'est ceux qui peuvent continuer, le feront tout seul, parce que là, je ne pourrais pas trop suivre. Et on a cette nuit et l'aube, puisqu'ils ont lutté, Yaakov et l'ange ont lutté toute la nuit. Et la nuit symbolise l'exil, les ténèbres de l'histoire. L'aube, au contraire, va représenter la Géoula, la rédemption d'Israël, la lumière messianique qui va surgir après cette longue lutte qui est synthétisée par les mots que l'on a déjà examinés, Akol, Kol, Yaakov, etc. La voix, c'est la voix de Jacob. Jacob étudie, Jacob prie, et ce faisant, il affaiblit les mains de Ésaü. La rédemption vient après ce travail spirituel, mais on le sait à cause de la blessure, après aussi une longue épreuve.